a effectivement une double tendance, une demande à des changements radicaux, à ne plus voir ceux qui étaient en place auparavant. Et en même temps, on ne peut pas écrire totalement une page blanche. Le pouvoir était tellement fort qu'il est difficile de tout reconstruire à zéro. Et donc, il faudra certainement faire un compromis entre les aspirations au changement et en même temps les réalités qui imposent une certaine part de continuité, à condition, bien sûr, que cette continuité n'ait qu'un seul but, préparer l'avenir et préparer des élections libres, démocratiques et ouvertes.
Ces événements en Tunisie, est-ce qu'ils peuvent se répercuter sur d'autres pays arabes aujourd'hui? On pense notamment à l'Égypte, par exemple.
Effectivement, il y a un risque d'onde de choc sur les autres pays arabes, qui connaissent également une insatisfaction de la jeunesse et des revendications sociales, et puis également une contestation de ce qui est considéré comme un immobilisme politique. L'Égypte vient bien sûr au premier rang des régimes parce que Moubarak est au pouvoir depuis encore plus longtemps que l'était Ben Ali. Mais en même temps, il y a des circonstances nationales qui sont différentes selon les pays et des positionnements également géopolitiques qui sont différents. L'exemple qui avait été fait un peu d'une contagion à l'image de ce qui s'est passé en Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin où tous les régimes communistes étaient tombés très rapidement les uns après les autres ne me paraît pas être approprié. Mais par contre, un signal très fort a été envoyé. Les populations arabes n'acceptent plus qu'on leur dicte leur comportement. Et donc, il y a un peu une remise en cause d'une ampleur différente de l'ensemble des régimes arabes.
On peut parler également de la position de la France dans tout cela. On a parlé des réticences françaises à soutenir la révolution de Jasmin. La France a longtemps justifié sa position de soutien à Ben Ali comme rempart à l'islamisme. Alors, quelle est la véritable force de l'islamisme en Tunisie? Y a-t-il le péril en la demeure?
Le danger islamiste a été grossi. Il a été grossi d'ailleurs à dessein par Ben Ali pour justifier sa mainmise sur le pouvoir. On a bien vu lors de toutes les manifestations qu'on évoquait la démocratie, on évoquait les libertés, mais on n'évoquait pas Dieu et on n'évoquait pas l'islam. Et que le parti islamiste est un parti qui est plus proche du parti AKP au pouvoir en Turquie, donc une sorte de mouvement démo-musulman, plus qu'un mouvement extrémiste du type du FIS qui avait voulu conquérir le pouvoir en Algérie. Donc on peut dire que la menace islamiste a été exagérée, grossie volontairement pour légitimer la répression et l'immobilisme du régime de Ben Ali.
Alors également, Moncef Marzouki, qui est donc l'opposant historique du président déchu Ben Ali, est rentré ce mardi en Tunisie et il s'est d'ores et déjà déclaré candidat à la présidentielle. Alors est-ce qu'on peut penser qu'il peut devenir l'homme fort que le pays attendait?
On est dans une telle situation de volatilité que tout peut se passer et que bien malin ou bien plutôt présomptueux serait celui qui tirerait des plans sur la comète d'une élection qui n'aura lieu que dans quelques semaines, voire quelques mois. Moncef Marzouki est très populaire, c'est un véritable tribun, il est tout à fait en phase avec les médias, notamment les médias internationaux, mais il faudra voir ensuite au cours de la campagne quel est son impact réel. Il y a une véritable légitimité, mais dans une situation aussi inconnue et aussi ouverte que celle qu'est la Tunisie aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer et d'autres leaders peuvent apparaître.